l'Office de tourisme de Centrafrique. L'expo du mois.
Anna Baer et Marcel Muller, deux céramistes du coin, du côté de Combré. La poterie s'appelle Poterie de Lucante. Est-ce que vous pouvez préciser où est-ce que c'est dans Combré ?
Alors, on est sur un lieu-dit qui s'appelle Lucante, à 5 minutes du village.
Donc, vous êtes tous les deux céramistes. Ah, j'ai lu sur le programme que vous deviez amener des terres cuites, des ragoûts, du grès, de la porcelaine. Est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu toutes ces techniques ?
Le grès, c'est de la terre qui résiste à la haute température, avec des émaux de haute température, c'est-à-dire aux environs de 1300 degrés. Et le ragoût, c'est une technique originaire de Corée et très populaire au Japon, notamment pour la cérémonie du thé. Et c'est cuit aux environs de 900 degrés. Et les pièces sont retirées du four au moment où les émaux sont en fusion. Et ensuite, il y a un traitement avec la fumée, avec l'enfumage, avec de la sciure, des feuilles mortes, et de façon à souligner le tressaillage et les cassures qui se font au moment du choc thermique. Voilà.
Et pour les porcelaines que vous n'avez pas portées ?
Alors les porcelaines, c'est les mêmes températures que le grès. Voilà, c'est la seule différence entre les grès et la porcelaine, c'est que la porcelaine, pour mériter ce nom, il faut qu'elle soit blanche et translucide, disons, dans une épaisseur de 2 ou 3 mm. Voilà, sinon c'est les mêmes traitements, que les mêmes émaux que les grès.
Alors dans cette expo, les pièces que vous avez apportées, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on retrouve ?
Alors nous, on a appelé ça les porte-plantes. C'est quelque chose qu'on a inventé. Donc c'est des boules qui sont tournées principalement. Et quand elles sont ce qu'on appelle à consistance cuir, c'est-à-dire qu'on peut les prendre et les déformer légèrement. Donc on les déforme, on les ajoure. Et quand la céramique est cuite, donc on y introduit de la terre et des plantes. Donc on a appelé ça porte-plantes.
Alors qui dit porte-plantes, dans ce mot, il y a plantes. Comment faites-vous pour récupérer tous ces végétaux ?
Alors, moi, je suis une grande glaneuse. Ça s'est fait depuis des années. Donc, par la curiosité de voir des paysages qu'il pouvait y avoir, notamment dans les rougiers, des mondes et des paysages fantastiques, des mondes de mousse, de lichen, de plantes grasses, sédum, joubarbe. Et donc, voilà, ça fait des années que je glane et on a notre petite production personnelle qu'on a à la maison.
Votre technique de travail, le four que vous avez, c'est quoi ? Marcel, Anna ?
ce sont des fours à gaz. Des fours à gaz qui fonctionnent au propane, voilà.
Ce sont des grands fours, vous pouvez cuire beaucoup en même temps ou...
Un demi-mètre cube. Un demi-mètre cube pour le plus grand et après on en a d'autres un peu plus petits.
Est-ce qu'on arrive à en vivre de la poterie aujourd'hui ?
Alors oui, il y en a qui en vivent, il y en a qui en vivent bien, il y en a qui en vivent mal, il y en a qui ont du mal à en vivre. Disons que quand on s'installe, il faut compter quand même 3 ans quoi, à peu près pour pouvoir un peu s'en sortir. En vivre totalement, c'est pas facile, c'est sûr, mais c'est possible. C'est possible avec, disons, en faisant un apport, disons, d'un fixe mensuel, en accueillant des enfants, en accueillant des adultes dans l'atelier ou en travaillant dans des centres, des MJC, des maisons de la terre et des choses comme ça. Si on est dans un endroit pas trop isolé, ça permet d'avoir un fixe et ceci aidant, ça permet de s'en sortir parfois uniquement avec la poterie, oui.
Des porte-plantes, est-ce que vous avez envie de faire autre chose ?
Et oui, on a mis le pied, je pense, dans quelque chose qui est infini. Oui, énormément d'idées, notamment de jouer avec des plantes d'eau et des céramiques, et notamment avec des mousses d'eau. Il y a plein de projets, oui, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution.
Introduire l'eau dans ces porte-plantes ?
Oui, notamment, oui. Et des mousses.
Du bruit, peut-être ?
Yeah. Ça, c'est pas en projet, mais par contre, ça a été envisagé, puisqu'on fait, on fait pas mal d'interventions, et notamment on travaille avec les nouveaux troubadours à Saint-Sever, et on a travaillé sur des cloches, sur, voilà, pour la construction insolite, et ça a déjà été envisagé, oui.
Donc des instruments, des objets sonores qui font nourrir.
Oui, pourquoi pas, mais c'est ce qui est magique dans la céramique, c'est que justement, on parlait de la difficulté d'en vivre. Il y a 60 ans, il y avait quasiment plus de potiers, de tradition potière en France, en tout cas, notamment. Et maintenant, il y a vraiment un renouveau avec énormément de gens qui s'y intéressent. Et je pense que ça correspond à quelque chose du moment dans la société. On a peut-être besoin de retrouver des choses un petit peu plus simples et essentielles.
Tu parles de renouveau de la poterie. C'est vrai qu'à une époque, il y a 100 ans, la poterie servait de vaisselle, en fait, essentiellement. Après, c'est devenu un objet de décoration. Et vous pensez que là, c'est en train de rebasculer ou ça va rester un objet? Quel est le pourcentage de vaisselle, je dirais, et d'objets et d'œuvres d'art que vous arrivez à faire? Est-ce que vous faites déjà de la vaisselle?
Oui, ce qu'on appelle la poterie utilitaire, nous, c'est principalement notre production. Après, il y a eu justement cette histoire de porte-plante. Il faudrait peut-être rappeler l'historique. C'est que nous, on fait des stages et on fait de la formation. Et il y a un exercice de céramique qui consiste à apprendre à faire une boule fermée. Et donc, pour faire la démonstration, on avait une quantité de boules comme ça qu'on avait mis en décoration à l'extérieur. Et petit à petit, on a vu la mousse s'introduire sur des pièces qui étaient un peu poreuses. Et voilà, d'année en année, petit à petit, ça a évolué. Pour cette expo en particulier, donc, on a travaillé sur des grosses pièces qui sont particulières, qu'on n'aurait peut-être pas tous les jours ou qu'on n'a jamais montré. Voilà, donc à l'occasion d'une exposition, c'est l'occasion de faire des pièces, des grosses pièces et particulières.
C'est le lieu aussi qui impose la taille.
Bien sûr, le lieu avec toute cette luminosité.
À côté des poteries d'Anna Baer et Marcel Muller, on retrouvera Amandine Joannet qui est photographe et qui a travaillé avec un groupe du coin qui s'appelle l'association Paysans d'Urance. Comment vous êtes rencontrés?
Alors Amandine Chouanet, donc on l'a rencontrée dans le cadre des Paysans d'Urance, puisque donc c'est une association de paysans mais qui a été élargie aux artisans. Et donc on fait partie de cette association et elle est venue nous contacter parce qu'elle était intéressée par nos démarches et elle avait envie de faire des photographies donc sur cette association. Donc elle nous suit depuis un moment, elle vient régulièrement sur les marchés, elle est passée dans les fermes et donc on trouvait ça intéressant d'avoir le point de vue des céramiques, puisque ces céramiques, ces porte-plantes, là aussi, c'est un point de vue, c'est un cadre, c'est une proposition qu'on pourrait dire artistique, en toute humilité. Et Amandine, je pense qu'un travail photographique, là aussi, on est dans la même démarche.
Bien, merci Marcel, merci Anna, et bonne cuisson.
Merci.
Bonjour Amandine.
Bonjour.
Alors photographe, vous photographiez quoi sur cette expo?
Alors là, c'est une série que j'ai réalisée auprès des Paysans d'Urance. Donc c'est une association de producteurs dans la vallée d'Urance. Ils sont à peu près 14. Voilà, et donc je les ai suivis depuis presque un an maintenant.
Un boulot de reporter presque.
Oui, c'est du documentaire. Ouais.
D'accord, un documentaire sur quoi? Qu'est-ce que vous avez mis en valeur?
Alors j'ai mis en valeur leur activité en fait à chacun, donc ils ont toutes des activités différentes. Il y a des producteurs d'agneaux, des producteurs de miel, de veau, de porc, gascon. Il y a de la production de safran, enfin diverses choses. Et des artisans comme Anna Baer et Marcel Muller.
D'accord, donc à la fois de l'alimentaire, de l'artisanat.
Alimentaire et artisanat.
Essentiellement.
Oui.
D'accord. Et c'est une activité que vous faites depuis un moment, la photographie ? Ça vous est arrivé quand ?
Non, ça fait longtemps. J'ai fait les Beaux-Arts à Marseille, il y a une dizaine d'années. Voilà, je suis venue ensuite m'installer dans la région.
Alors, quels sont les autres types de boulots que vous avez fait en photographie ?
Alors, du paysage. En arrivant ici, il y a 8 ans, j'ai fait un livre qui s'appelle « Saison en Sud Aveyron ». Voilà. Donc, j'ai fait les illustrations et Jacques Vézy avait fait les textes à l'époque. Il a été édité par Le Progrès.
D'accord. Et cette envie de faire du documentaire, du reportage ?
Alors ça, c'est récent. En fait, à la base, j'étais cliente des paysans d'Urance et leur démarche m'intéressait. Et donc, je me suis demandé comment défendre leurs idées et comment participer à ma manière. Et donc, l'idée du reportage est venue, en fait.
Comment pensez-vous que le reportage photo puisse les aider ?
Ben, en diffusant leur... en faisant parler d'eux, déjà. Voilà, en montrant ce qu'ils font.
Est-ce qu'un livre est en perspective ?
J'espère. Voilà, parce qu'en un an, j'ai fait beaucoup de photos. Là, j'ai fait une petite sélection pour l'exposition. Je ne pouvais pas en mettre plus. Il y en a une trentaine. J'en ai presque 200 maintenant. Donc oui, je vais aller à la recherche d'un éditeur maintenant.
Voilà, et qui dit livre, dit aussi peut-être un petit côté rédactionnel. Est-ce que vous allez faire les textes ?
Non, j'aimerais que ce soit un journaliste ou un écrivain qui les fasse. Et voilà, quelqu'un qui connaisse bien le sujet. Voilà, parce que... qui parle du développement local, l'agriculture biologique raisonnée, biodynamique, et puis du développement local aussi. Voilà. Donc il faudrait trouver quelqu'un qui connaisse bien le sujet.
Les photos couleurs, et c'est du numérique ?
Du numérique, oui. Je suis passée au numérique il y a quelques années maintenant.
Donc comment vous faites faire vos tirages, puisque là, il vous faut sous-traiter ?
Oui, alors là, je passe par un labo, et donc je le fais faire à Sainte-Afrique pour l'instant.
D'accord. Et c'est une activité qui est lucrative ou pas du tout ?
Pas pour l'instant, mais je suis installée en tant que photographe professionnelle depuis un mois maintenant. Et donc, voilà, j'espère développer mon activité.
Et votre activité antérieure, c'était ?
Professeur en art appliqué en lycée professionnel.
Très bien. Mais écoutez, Amandine, on vous retrouvera du 11 mai au 2 juin à l'expo à l'Office de tourisme du Centrafricain. Merci à vous.
Merci.
De tourisme de Sainte-Afrique. L'expo du mois.
CD de la semaine. Le CD de la semaine.
Le CD de la semaine.
Sur Radio Saint-Af.
Qu'est-ce que t'en dis, tes mots se sont incarnés, ils sont en train de le créer, ce monde que tu redoutais, à grands coups de marketing, pour qu'on soit bien dans nos baskets, du rêve et des chanteuses en string, pour qu'on sente beau dans nos têtes, d'hypoiteur horizon, des eaux troubles à l'horizon, sombre acide puante, gluante, regarde la marée montante, mais aucune marée chaussée ne pourra stopper la courante, des enfants contaminés, leur difformité me hante, aux finances ils s'en balancent, la bourse crie à l'indulgence, mais ne voit aucune urgence, demain tu auras ta chance, pendant ce temps c'est toi qui rack pour éviter le crack, pour qu'à Wall Street les monarques puissent continuer leur arnaque, tandis que les caméras se braquent sur le désert et sur le fat, sur les frasques et les débâcles de ceux qui traquent peine en Irak, c'est l'orgie monétaire, c'est le monde à l'envers, ils se disent philanthropes, les miracles ne voient pas qu'ils détruisent la terre, mais que peut donc faire baraque, barrage via des moratoires, moratoire sur moratoire, mort dans l'œuf il est trop tard, bats-toi pour l'amour et l'espoir, en évitant le mitard, pendant qu'ils survolent le monde détruit par leurs idées noires, souviens-toi de Texas City,
et de Prud'homme de mort, nos carobères de Tlès, il ignore tout démarré. Que BP provoque encore dans le golfe de Guinée. Rien aux journaux télévisés, préoccupés par l'idée. Mêmes infos sur toutes les chaînes, mais qui tient donc les ficelles? Le pétrole a disparu, les côtes de Louisiane sont belles. Venez donc faire du tourisme sur la tour Eiffel. Madoff s'occupe de tout, l'addition sera pour Kerviel. Il m'étonne, le moteur Pantone fonctionne et ça t'étonne. Ça détonne et ça sonne pour l'Afghanistan en somme. Regarde les actions d'Anon, Actimel qui t'empoisonne, les PCB dans le Rhône. Ici c'est la DES qui trône, comme le chantonne Capleton, des Slington jusqu'à Kingston. Mes rimes tonnes résonnent des tonnes, comme un orage à Wellington. Contre les tonnes de merde de Pemex, les textes et les mecs de Carlyle, les fautes et les notes de Carbide, les victimes et les mines de Bhopal, les mises, les crises de subprimes. L'usine s'endose à balles face à ce mal global d'étal. Tire des rafales de balles aux responsables, on dirait qu'ils sont fiers de faire l'enfer et la guerre. Pas de honte, la banque et de compte qui compte comme le montre Anaversa des Cordoba. Si on s'en sort, faudra éviter le détroit de Malacca. On se croirait devant l'enfer comme le cratère de Darvaza.
Bienvenue dans le Challenger, on va quitter l'atmosphère pour atteindre un ciel meilleur loin des nuages nucléaires.
Ils nous parlent de vivre d'ailleurs, d'aller vers de nouvelles terres. Ils ont Mars dans tous leurs viseurs et leur bêtise me sidère. C'est l'assombrissement global, la planète s'obscurcit. Chapitre 8 des prophéties, 30% en Russie sous leur fausse démocratie. Ils nous parlent d'écologie, font genre de la philanthropie, mais aiment que quand tu obéis. Si tu peux baisser les yeux, ils te détestent si tu fuis. Si tu bouges de leur emprise, si tu réclames des royalties sur la route de la banqueroute, tu te consoles avec les croûtes. Face aux théories, tu doutes et la partiture doute et la peur t'envahit. Tu te noies dans le mazout. On t'écrase coûte que coûte, on écrase ce que tu coûtes. Quand ton message a du sens, qu'il pousse à la diligence, ton esprit de résistance, l'amour et l'intelligence, ils vont briser toutes tes chances, te pousser pour que tu flanches. Je résiste et m'en balance, car avec ma langue je tranche la montée des intégrismes, de la haine et du fascisme. Ils nous font des beaux discours sur le patriotisme, mais avec leur loi laïque et leur délire identitaire, ils me donnent envie de vomir et de brûler tout leur charter. Tandis que ces repris de justice tripent sur l'air sécuritaire, la liste de leurs demeures se déverse encore dans l'atmosphère. Accidents des veines, déversements de benzène, catastrophe de Benzel, ont-ils aussi ça dans les jeunes? Regardez-moi ces barjots, le volcan de ces douargeaux. Regardez-moi ces bâtards, Boliden, Asnal, Collard, la Loire niquée par Total et le CNPE, matelas, réserve de gros contaminés par la SPSE. Pollution à ces vaisseaux à ces réseaux. Leur vaisseau, on leur réserve le pognon, on leur réserve le pognon. Les chercheurs de pognon, les chercheurs de pognon.
Le meilleur des mondes, un morceau extrait du nouvel album d'Esthésie 1984. Un CD de la semaine que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de Radio Sainte-Afrique.
Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un auteur que moi j'aime particulièrement et qui est assez peu connu. C'est un auteur français qui s'appelle Louis Guillou, qui est donc un romancier qui est né à Saint-Brieuc en Bretagne en 1899. Et je crois qu'il est mort dans les années 80, enfin peut-être même 80, 81, je ne sais plus. Et en fait, ce que je trouve assez fascinant chez cet auteur, en fait, c'est tout, les romans qu'il a fait autour de la classe ouvrière, puisque lui, il est né dans une famille très pauvre. Son père était cordonnier, son père était un militant socialiste, il a été un des premiers, il a fondé une maison du peuple. D'ailleurs, c'est le roman dont je vais parler après qui porte ce titre. Et puis, il a toujours été très engagé et Louis Guillou, il est un peu dans cette veine-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, c'est des romans populaires, les romans du peuple, mais ça reste... c'est pas forcément des romans engagés, ça parle vraiment de la vie des gens au plus près. Mais en même temps, effectivement, il dresse le portrait d'une cité, la cité de Saint-Brieuc, parce que quasiment tous ses romans se passent en Bretagne et dans sa ville natale. Et donc, il présente vraiment la société telle qu'elle est, enfin, avec ses duretés, la façon dont les différentes classes sociales sont séparées, et puis tout ce qui s'est passé pendant la première moitié du XXe siècle, puisque lui, il parle dans tous ses récits, il évoque à la fois son enfance et puis sa jeunesse engagée, comme l'était son père. Et c'est ça que moi, je trouve assez passionnant. Donc, il a écrit plusieurs romans, dont le plus célèbre, c'est Le sang noir, qui est sorti en 1946. et qui raconte en fait l'histoire d'un professeur qui ça se passe pendant la guerre la Première Guerre mondiale et donc c'est l'histoire d'un professeur qu'on appelle Kripur et puis qui en fait qui dénonce toute la veulerie des gens qui vivent à l'arrière et donc c'est vraiment une remise en cause de la guerre à travers le portrait de différentes personnes qui en fait qui s'engraissent à travers ça. Donc à la fois c'est pas du tout un roman comme certains romans qui sont sortis après la Première Guerre mondiale, qui sont des romans très engagés. Ce n'est pas forcément un roman engagé, mais en même temps, il y a une dénonciation très forte de la guerre et puis, encore une fois, des gens qui s'en nourrissent. Donc, il a écrit bon, les romans les plus célèbres, donc c'est Le Sang Noir. Il y a aussi La Maison du Peuple, dont je vais parler, puisque c'est son premier grand roman. Alors, je vais vous lire quelques extraits. Et puis, hein, le livre que moi, j'ai adoré, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, je regarde bien le titre, qui s'appelle Le Jeu de Patience, qui est sorti en 49. Et là, Le Jeu de Patience, par contre, ça traite des années à peu près, des années 30 à 37, 38, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Et encore une fois, c'est toujours dans cette ville, un peu tout ce qui se passe, tous les gens qui arrivent, notamment les réfugiés espagnols, et ça brasse énormément de destins. Je rapproche ça d'un livre comme Vie et Destin de Vassili Grossman, qui présente vraiment une photographie d'une société, de tout un peuple, au moment des grandes crises. Bon, bien sûr, Vie et Destin, ça se passe au moment du siège de Stalingrad. Et là, c'est vraiment avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est la montée des fascismes, l'opposition entre les fascistes et puis les socialistes, enfin, les gens, les réfugiés espagnols. Parce qu'il faut savoir que c'était quand même des périodes, au niveau historique, c'était vraiment, il y avait des affrontements très, très rudes. Et donc, ça adresse un portrait de cette société-là. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. Moi, c'est Le Jeu de Patience que j'ai préféré dans tout ce que j'ai lu de lui. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de La Maison du Peuple. Donc, La Maison du Peuple, c'est son premier roman. Et en fait, il s'est inspiré, Louis Guillou s'inspire vraiment de son enfance. C'est-à-dire que, à la fois, c'est vraiment un roman, mais en même temps, on se retrouve dans une famille d'ouvriers avec un papa qui est cordonnier, comme l'était le père de Louis Guillou. Et puis, donc, ce petit garçon qui a deux grandes sœurs, comme lui avait deux grandes sœurs. Et c'est vraiment... en fait, c'est une plongée dans ce milieu ouvrier avec... son père est très engagé. Ils essayent de monter... Ils créent une première cellule socialiste. Ils essayent de monter une maison du peuple. Et c'est tous les revers qu'ils peuvent connaître. Parce que le père, du coup, se retrouve bientôt abandonné par ses clients. Il se retrouve dans une misère noire. Et ensuite, c'est juste avant la Première Guerre mondiale, donc la guerre arrive et ça fait avorter le projet. Mais ce qui est beau là, c'est que je trouve qu'en ces jours d'aujourd'hui, c'est pas mal de se rappeler de ça, c'est que ça fait vraiment connaître la misère du peuple de cette époque. Enfin, c'est vraiment, ça montre comment la misère, ça détruit les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, on pourrait s'en inspirer, quoi. C'est vraiment, à la fois, bon, les personnages sont très attachants, notamment le personnage du père, qui est à la fois quelqu'un de, bon, très pauvre, qui essaye de faire de tout pour faire vivre sa famille, puis en même temps, qui a ses idéaux, donc qui essaye de pas trahir ses idéaux, et puis en même temps, la réalité, de la vie fait que c'est très difficile. Et puis ça montre comment finalement même les sentiments entre les gens sont des fois attaqués par cette misère quotidienne, cette difficulté de vivre. Et ça, c'est quelque chose que lui transmet vraiment très bien, parce que c'est quelque chose qu'il a vécu, quoi, tout simplement. C'est vrai que c'est pas un roman sur la classe ouvrière, c'est vraiment un roman fait par quelqu'un qui est ici de ce milieu-là. Et c'est ça que moi je trouve très fort, parce que on n'est pas du tout dans le misérabilisme, dans la plainte ou la complainte. On est vraiment dans la description de la façon de comment on vit, comment on fait quand on n'a pas de quoi, on ne sait pas comment on va nourrir ses enfants au quotidien. Donc c'est ça que moi je trouve très fort. Et puis il y a ce côté aussi engagement politique, de non-résignation. Enfin, les gens qu'on présente sont des gens qui ont une dignité absolument extraordinaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui serait difficile à retrouver aujourd'hui, dans le sens où ce qu'on appelle la classe ouvrière, c'est quelque chose qui n'existe plus. Enfin, ça, bon, il faudrait des débats politiques autour de ça. Puis moi, je suis pas politicienne. Bon, après, j'ai mes idées, mais voilà, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est vraiment fort. C'est que là, on se rend compte quand même même qu'il y avait à la fois, c'était des, les gens vivaient dans des situations très très difficiles, et en même temps il y avait quand même, une fierté d'appartenir à ce peuple, d'appartenir à cette classe ouvrière, et d'essayer de vivre le plus dignement possible. Voilà. Donc bah, je vais lire, pour compléter, je vais lire deux passages en fait de La Maison du Peuple. Moi j'ai une très vieille édition, j'ai lu, qui est superbe, avec un avant-propos d'Albert Camus, et qui dit comment lui, la lecture de Louis Guillou a été fondamentale pour lui. Bon, c'est pas étonnant de quelqu'un comme Albert Camus, bien évidemment, mais Louis Guillou, c'est quelqu'un qui a été quand même très reconnu dans le milieu littéraire. Il a eu le prix Goncourt pour Le Sang Noir, je crois qu'il a eu le prix Renaudot pour aussi Le Jeu de Patience, donc voilà quoi, c'est quelqu'un qui a été, bon, il a toujours mené une vie assez en retrait de la vie mondaine littéraire. Il était professeur, hein, il a d'abord été pion, puis après professeur, donc il a quand même bénéficié de l'ascenseur social. Bon, il était très connu dans le milieu littéraire, mais c'est pas quelqu'un dont on connaît le nom, forcément, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent à peu près son œuvre. Et moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a à peu près 20 ans. Je me suis toujours dit qu'un jour, il faudrait que je fasse quelque chose autour de ça, parce que je trouve que c'est une parole qu'on entend peu, et ça serait intéressant. Bon, alors, donc, je vais vous lire le premier passage donc, de La Maison du Peuple, en fait, où là, c'est le père, donc, de cette famille qui a le projet, donc avec des amis, de monter une première union un petit peu autour de cette maison du peuple. Et c'est le retour à la maison et en fait les échanges qu'il y a entre sa femme et lui. Quand elle apprit qu'une section socialiste venait d'être fondée, ma mère demanda « Alors François, c'est le nom du père bien sûr, « Alors François, qu'est-ce qui va arriver ?»« Comment ?» dit mon père. « J'espère bien que la révolution n'est pas loin. » Elle leva les bras au ciel. « Bien sûr que oui, dit-il, la révolution. » Qu'est-ce qu'il racontait là? Avait-on besoin de révolution? Et la misère qui viendrait? On était bien assez malheureux sans cela. Et tes trois gosses? Mais c'est justement, dit-il. Elle secoua la tête. « Tu n'aurais pas dû te fourrer là-dedans. Un sang bouillant comme toi. S'il arrive quelque chose, tu seras le premier qui attrapera. Et pourquoi? Oh, tu dis bien, mais... » Il répliqua d'un ton brusque. « Il le faut. » Ma mère soupira. « Ce n'est pas moi qui te retiendrai, François. Tu es assez grand, mais ne te laisse pas entraîner trop loin. N'aie pas peur. » Il avait beau dire, elle n'était pas tranquille. Elle sentait bien que tout cela venait du docteur Rébal. Le docteur n'avait rien à perdre et pas de petits-enfants à élever. Mais si l'ouvrage venait à manquer, comment ferait-il? Elle ne pouvait pas non plus obliger son homme à se cacher. Elle lui dit, « Tu as ta fierté d'homme. » « Oui, oui, et je l'aurai jusqu'à la fin. » Personne ne me fera taire mes idées. Voilà, donc ça, c'est le premier passage. Je crois que ça met bien en évidence un peu toutes les questions qui se posaient autour de ça. Et on comprend un peu comment les révolutions ont été difficiles à mener. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont... pour eux, c'est vraiment un engagement où c'est toute leur vie quoi, qui est engagée. Bon, et ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements à cette époque-là, avant la guerre de 14. Et puis, qui sont des mouvements qu'on retrouvera après en 36. Mais voilà quoi, c'était des engagements qui sont vraiment des engagements d'hommes quoi. Alors ensuite un petit passage qui est un petit peu plus loin où effectivement là en fait se noue un petit peu le nœud de l'intrigue quoi, à savoir que effectivement le papa est engagé dans ce premier groupe socialiste et c'est un petit peu ce qui va en résulter. Comme il était à son échoppe et que 4 heures venaient de sonner à la cathédrale, mon père s'aperçut qu'il n'avait plus un sou d'ouvrage. Il venait de faire une bricole et il se retournait vers le fond de son échoppe où il mettait ordinairement dans un tas les souliers à réparer quand il vit qu'il n'y avait plus rien. Il s'avança jusqu'au fond, pensant qu'une paire de souliers avait bien pu rouler sous une chaise. Il fouilla partout, ce qui fut vite fait, et ne trouva rien. Il voulut rire et croisant les bras, il dit « Ça par exemple ?» Mais il n'eut pas la force de rien ajouter et s'assit sur son tabouret. Il se mit à repasser dans sa tête tout le travail qu'il avait fait dans les premiers jours de la semaine. L'un après l'autre, il nommait ses clients. « J'ai fait, pensait-il, un ressemelage pour Madame Collin, un autre pour Madame Loiseau de la rue Saint-Martin, des talons pour Monsieur Beau, ça fait 3. Lundi, pourtant, il y avait un assez joli petit tas d'ouvrages. Nous étions jeudi. Il s'était bien rendu compte que le travail avait un peu baissé, mais il avait espéré qu'il en viendrait dans le courant de la semaine. Le temps de la morte saison était loin encore. » Et bien que le lundi, son tas d'ouvrages ne fût pas aussi beau qu'à d'habitude, il s'était mis au travail avec entrain. Il continua de chercher dans sa tête pour qui il avait travaillé les jours derniers. Il arriva bientôt au bout du compte et c'est alors qu'il se souvint que plusieurs de ses clients qui lui avaient promis de l'ouvrage ne lui avaient rien apporté. « Comment, dit-il, Monsieur Lorgent m'avait parlé de ses souliers de chasse et Monsieur de Corneuil. » Depuis le lundi, il n'était venu personne à sa boutique. Plus un sou d'ouvrage. Il avait comme honte. Même à la morte saison, il y avait toujours ce qu'il appelait un petit courant. À présent, il n'avait plus qu'à fermer boutique et à se croiser les bras. Mais fermer boutique était une humiliation trop grande et trop difficile à supporter. Et pourtant, il ne pouvait rester là à ne rien faire, assis sur son tabouret. Il aurait pu nettoyer ses outils, mettre de l'ordre sur son vieilloir, ranger ses formes. Il n'en avait pas le courage. Il sentit tout à coup une espèce de courbature dans tout le corps et brusquement il s'habilla, ferma la boutique et sortit. Voilà, donc là, c'est un très court passage. Moi, je trouve que ça rend bien compte un peu de la façon dont Louis Guillou fait sentir les choses. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de grandes idées, mais on comprend tout à fait que en fait, cet homme, cet ouvrier qui vient de s'engager parmi les socialistes, ben voilà, les bourgeois lui font payer. Et donc, il y a tout le rapport entre les classes, tout le rapport de l'ouvrier au travail, et puis comment, finalement, s'il a pu son travail, comment la misère va s'installer dans la famille. Et ça, c'est dit en quelques phrases, quoi. Et puis, il répète deux, trois fois plus un sou d'ouvrage. Et puis, voilà, ça veut tout dire. Et c'est ça, je trouve, que la force du style de Louis Guillou, parce que, en fait, il nous fait toucher du doigt la réalité des choses, sans grande envolée lyrique. Le style est très, très simple, hein, vous avez pu le voir. Et puis, on comprend tout à fait, en fait, ce qui est en train de se jouer. Et en fait, tout le drame de la famille va découler de ça, c'est-à-dire qu'en fait, cet homme va se retrouver sans travail, et puis tout ce qui va découler pour sa femme et pour ses enfants. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire Louis Guillou, et peut-être de commencer par La Maison du Peuple, parce que c'est un roman qui est très court, et puis qui fait bien comprendre tout l'univers de Louis Guillou, puis ensuite, après, il y a Le Sang Noir, et puis il y a Le Pain des Rêves aussi, dont je n'ai pas parlé, et puis Le Jeu de Patience, que moi, je trouve aussi assez formidable, et tout ça, vous le trouvez en livre de poche.